Soft Power, le numérique est politique. Le débat, Frédéric Martel.
Dans le débat, le numérique et politique ce soir, nous débattons de la question du patriotisme économique appliqué aux start-up. Et nous sommes pour ce débat avec Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon, aujourd'hui consultant en innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder, et Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande, consultant numérique. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci Romain Pigenel de rejoindre l'équipe des débatteurs de cette émission. Faut-il étendre le patriotisme économique aux start-up françaises? C'est le sujet dont nous allons débattre ce soir. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la semaine dernière sa volonté d'étendre le décret Montebourg, qui date de 2014. Alors, de quoi s'agit-il? Ce décret prévoit que dans certains secteurs, les investissements soient obligés d'obtenir une autorisation préalable de Bercy avant d'investir dans une entreprise française. En 2014, ce fut le cas avec le refus par le ministère, en l'occurrence le ministre Montebourg, de vendre Dailymotion à Yahoo. Alors, ce décret ciblait à l'époque les domaines de l'énergie, de la défense et des télécoms. Désormais, Édouard Philippe veut l'étendre à l'intelligence artificielle, au spatial, au stockage des données, aux semi-conducteurs, aux infrastructures financières, bref, aux entreprises du numérique. Alors, est-ce une bonne idée ou non du gouvernement? C'est vrai, Naudet, pour commencer sur cette question.
Ah ben là, je crois qu'on a touché le fond de l'absurde et du ridicule. Si une activité qui a de l'intelligence artificielle et des données est une activité, une entreprise devient une entreprise stratégique, alors le premier fabricant de brosses à dents connectées est un danger pour la sécurité nationale. Ou alors, pourquoi pas, demain, les voitures connectées dont on peut prendre
mais
le contrôle à distance.
Est-ce que c'est sécurité nationale ou est-ce que c'est patriotisme économique?
Non, mais là, d'abord, on n'en sait pas. Rien, parce que le gouvernement n'a donné aucun détail. Mais en tout cas, il est fait référence à des domaines qui sont des risques pour la sécurité nationale ou la défense nationale. Donc c'est tout simplement absurde.
Une première réaction, Romain Pigenel?
Déjà, essayer d'être un peu précis. Alors, le problème, c'est justement qu'il n'y a pas beaucoup de précision sur ce qui va être fait. Donc je pense qu'il faut attendre d'avoir un peu plus d'éléments sur quel va être l'étendue du décret, de quoi on va parler précisément. Mais si on regarde un peu l'existant, notamment le décret Montebourg, ce qui est important de noter, c'est que d'abord, c'était l'extension de réglementation qui avait été prise déjà 10 ans auparavant, je crois, à l'époque de Dominique de Villepin. Ça avait commencé dans le domaine des infrastructures liées à la défense, à la police, etc. Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que c'est pas une interdiction des investissements, mais c'est une interdiction des prises de contrôle. Alors, je sais que quand on regarde le code monétaire et financier, c'est pas extrêmement clair parce qu'on parle d'investissement, mais quand on regarde bien le texte, c'est les investissements qui aboutissent à une prise de contrôle parce que 33% des parts ou acquisition de la majorité, etc. Donc, c'est déjà un peu différent de ce qui est dit. Alors après, on peut discuter si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pas, dans tous les cas, à savoir est-ce qu'on est pour ou contre les investissements étrangers, est-ce qu'on est pour ou contre permettre la prise de contrôle d'entreprises dans des secteurs qui sont considérés effectivement comme étant stratégiques. Après, ouais, l'autre élément, juste pour terminer, qu'il faut souligner, alors toujours pareil, hein, moi je suis bête et méchant, je regarde le code monétaire et financier, en tout cas tel qu'il était à l'époque du décret Montebourg, c'est quand même une description de la loi qui est quand même très précise et qui parle d'acquisition qui mettrait en péril, alors par exemple, la pérennité des réseaux économiques, des réseaux d'énergie, la transmission d'énergie, le fait que les systèmes soient maintenus. Donc, en fait, le texte est plus précis qu'on peut le penser à premier abord. Après, la question, c'est qu'est-ce que va en faire le gouvernement actuel. S'il fait juste une extension du périmètre des thématiques, je dis que ça vaut au moins le coup d'être regardé. Après, évidemment, s'il change totalement l'esprit de décret, c'est un tout autre débat.
Mais alors, si on revient à 2014, par exemple, le fait d'avoir empêché Yahoo de racheter Dailymotion, aujourd'hui, quel bilan on peut en faire? C'est vrai, Naudet?
C'était une énorme connerie, mais la réalité...
Une erreur, on dit en français.
Non, une connerie. La réalité en économie, elle est aussi la perception. C'est pas uniquement le détail des textes. Bien sûr que c'est quand on dépasse 33% et quand on prend le contrôle d'une entreprise. Sauf que, quand on a empêché Yahoo de racheter Dailymotion, ça a été un des plus mauvais signaux qu'on a donné aux investisseurs étrangers qui en sont restés traumatisés.
Et on n'a pas sauvé Dailymotion tellement pour autant, Dailymotion n'est pas mort.
Oui, on n'en est pas loin.
Yahoo n'est pas bien non plus. Hein.
En plus, vous en êtes un des cofondateurs à l'époque.
Le vrai sujet, c'est que on sait tous, pour ceux qui avons dirigé des entreprises post-Dailymotion et cherché des investisseurs étrangers, cherché des capitaux risqueurs pour faire venir de l'argent en France et voire même de faire du business quand on était français à l'étranger, c'est un poids qu'on a porté pendant des années et on n'a juste pas envie que ça recommence.
Est-ce que le problème, c'est la question, le patriotisme économique, donc défendre nos entreprises et pourquoi pas nos start-up, ou est-ce que c'est plus les moyens employés, la méthode? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Où faut-il mettre le curseur?
Bah, déjà, pour revenir dans l'exemple de Dailymotion, évidemment, c'est un cas qui est pas une histoire très très glorieuse. Alors, pour être extrêmement précis, je crois que ça avait lieu plutôt en 2013 et que ce n'est pas lié au décret Montebourg.
Qui en est la conséquence.
Hein. Alors, qui en est la conséquence, en tout cas, c'est, on va dire, une espèce de d'état d'esprit qu'il y avait à l'époque. Et si on regarde
directement bloqué par M. Montebourg lui-même.
C'est un peu plus compliqué, puisque après de mémoire, le patron d'Orange, Stéphane Richard, avait dit lui-même que le deal proposé par Yahoo n'était pas satisfaisant, etc. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire...
Qui appartenait en partie Dailymotion.
Voilà, parce qu'il y avait un montage capitalistique qui était un peu compliqué, il y avait France Télécom qui était, enfin Orange qui était dedans, Orange qui était elle-même une entreprise avec des capitaux publics, donc c'était une histoire avec beaucoup de responsabilités. Après, comme je le disais tout à l'heure, pour faire un petit clin d'œil à Séverin Naudet, on ne peut pas dire non plus qu'Yahoo ait une très très belle réussite après, donc je pense que dans tous les cas, le sujet était compliqué. Après, quand on regarde ce qui s'est passé après l'adoption du décret Montebourg, on ne peut pas dire non plus que l'État ait passé son temps à empêcher des acquisitions dans tous les cas. Il y a eu finalement, à ma connaissance, un cas où ça a été utilisé, c'est dans le cas dans l'acquisition Alstom General Electric, et ça n'a pas été utilisé non plus pour bloquer l'acquisition, mais plutôt pour mettre des normes, pour mettre en place un rapport de force productif, enfin plutôt positif, qui a permis de mettre des garanties pour l'emploi. Donc
là, on confond juste Nestlé, L'Oréal et les startups françaises. La réalité, c'est que 60% des tours de table depuis 2013, des gros tours de table qui se font dans les startups françaises, viennent de capitaux risqueurs étrangers qui vont fuir si on prend ce genre de mesures. Et il y a un moment, on parle de Startup Nation, ça serait bien d'arrêter de se payer de mots. La Startup Nation la plus belle qu'on connaisse, c'est Israël. Je crois pas qu'on puisse penser ou considérer que Israël joue avec ses entreprises stratégiques et prenne des risques sur ses domaines stratégiques. Or, Israël a toujours tout fait pour qu'on puisse acheter toutes ces startups et puis pour les capitaux risqueurs.
D'ailleurs, ils ont été rachetés, Waze, etc.
Waze a été racheté 1 milliard, Mobileye a été racheté 800 millions par Intel. Israël fait tout pour faire venir les capitaux risqueurs racheter leurs startups. C'est ça, une Startup Nation.
Et en même temps, pour prendre une expression qui est à la mode et dans l'air du temps, on observe quand même que les pays qui sont en capacité d'investir en France, que ce soit les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Anglais, ils ont tous des dispositions législatives qui sont comparables à celles du décret Montebourg.
Oui.
Et avec... En plus, quand on regarde dans le détail, des définitions qui sont aussi larges et aussi floues quand on parle de secteur stratégique, etc. Et ça ne les a pas empêchés pour autant de faire des licornes, des grosses boîtes qui marchent et puis de continuer à investir.
Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser selon les cas, quand on veut.
Non, c'est quand on a un marché intérieur qui le permet. Quand on a un marché intérieur comme les États-Unis ou comme la Chine, évidemment, quand on est un acteur américain, on peut devenir un acteur global en utilisant juste les capacités de son marché intérieur et ses capitaux risqueurs intérieurs. On n'a même pas besoin d'avoir des filiales à l'étranger pour être un des plus gros acteurs mondiaux. Quand on est français, on ne peut pas faire ça.
Alors d'abord, du capital d'investissement, il y en a en France, je crois que cette année les fonds ont levé quelque chose comme 15 milliards, donc il y a quand même de l'argent. Et après, personne ne dit, et moi le premier, je suis d'accord avec toi, qu'il faut qu'on va faire une espèce de village gaulois.
Ils en viennent aux mains et se tutoient maintenant.
Voilà. Ce qui me semble important, c'est de dire qu'on n'est pas non plus dans une forme de naïveté, qu'on se donne des outils qui ne vont pas permettre systématiquement, qui ne vont pas aboutir systématiquement à bloquer des deals, mais qui vont servir dans certains cas, et je reprends l'exemple General Electric par exemple, à dire on va mettre des conditions, on va faire en place un rapport de force, et ça ne veut pas dire qu'on bloque, ça veut dire qu'on n'est pas, je dirais, moins bête ou plus naïf que les autres. Ça me semble être une bonne voie si on l'utilise dans ce sens-là, en tout cas comme instrument de négociation.
Alors à l'un et à l'autre, Romain Piginel d'une part, Séverin Naudet d'autre part, on a compris que vous n'étiez pas forcément d'accord. Est-ce que le problème, est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord ou pas sur le fait que le problème derrière cette annonce, ce n'est pas tout simplement un manque de compréhension du domaine entrepreneurial et particulièrement du numérique par notamment la classe politique, Séverin Naudet?
Ah, franchement, moi je considère que quand on arrive sur le sujet du numérique, si le ridicule tuait, on n'aurait plus aucun homme politique dans ce pays. Donc évidemment...
Toute droite, gauche confondue,
tout le monde. Alors franchement, tout le monde dans le même sac, personne n'y comprend rien. Et les gens qui sont au pouvoir, et j'en ai fréquenté quelques-uns, à quelques très très rares exceptions, comprennent cette économie. Et la preuve, encore une fois, c'est-à-dire qu'on met tout dans le même sac, on met tout dans le même panier, on fait des grandes annonces à grand renfort de communication en mélangeant un sujet comme L'Oréal et Nestlé d'un côté et l'écosystème des startups de l'autre, tout ça n'a absolument rien à voir et ça a un effet désastreux en termes de communication et de perception sur les investisseurs étrangers.
Romain Piginel ?
Moi, je partage plutôt l'avis de Séverin Naudet, c'est-à-dire que c'est quand même, pour l'instant, on n'a jamais été très très fort en France là-dessus, mais globalement, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux parce que d'abord, et moi je l'ai vécu du mauvais côté du Mans, je dirais, quand c'était le cas, des mouvements comme le mouvement des pigeons, ça a eu des effets positifs finalement, et ça a permis des prises de conscience. Et puis deuxièmement, on voit que le personnel politique, il change. Et ça, c'est un des effets quand même qu'on peut dire être positif de l'espèce de grand chambardement qu'il y a eu en France il y a un an. Il y a eu une nouvelle génération qui sont arrivées au pouvoir. Et il y a aussi, je pense, que l'idée qui s'est installée que maintenant, on ne fera pas une carrière politique toute sa vie, et qu'on fera plutôt des phases où on ira dans l'entreprise, on ira en politique. Donc je pense qu'on est plutôt dans un bon train et que ça va plutôt aller en s'améliorant. En tout cas, on est dans une situation, je pense, plus positive qu'il y a 5 ans ou 10 ans, pour prendre les deux majorités précédentes auxquelles on a tous les deux appartenu.
Alors à propos de ce sujet et de ce décret, tout le monde va être reçu, semble-t-il, dès demain par le pouvoir exécutif, notamment France Digital, le Syntec Numérique qui représente le syndicat des patrons, en l'occurrence liés aux start-up, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe du macronisme, à savoir le fait que le président de la République est plutôt proche de ces milieux-là, proche des investisseurs, proche des start-up, etc. Et là, on sent que ces milieux-là ont mal réagi, ou en tout cas réagissent très mal à cette proposition, c'est vrai, Naudet.
Bah, je crois qu'ils n'ont pas été consultés en amont, en réalité. Je pense qu'il y a eu une communication gouvernementale très forte sur un sujet, avec derrière cette notion de patriotisme économique, la France de retour sur la scène internationale, qui parle aux entreprises, qui parle aux entrepreneurs, qui protège son économie. En soi, tout le monde est d'accord avec ça, sauf qu'encore une fois, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, et comme d'habitude dans ce pays, mais ça c'est culturel hein, chez les politiques, pas plus ce gouvernement-là que les autres. L'économie numérique, dont je rappelle que c'est à peine 5% du PIB en France, alors que c'est 7,5 au Kenya, c'est 6,5 aux États-Unis, bah, c'est la dernière roue du carrosse. Donc on les appelle une fois qu'on dit « Ah, mince, on les a oubliés, on a balancé un truc et puis en fait, ils étaient encore là, eux, on a oublié de leur parler. » Donc bah oui, on les reçoit après coup. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, comme disait Romain, comme rien de très précis n'a été annoncé, on pourra rectifier le tir.
Romain Pigenel.
Bah oui, et puis moi je crois que c'est aussi effectivement les limites, comme le disait Séverin Naudet, du concept de Startup Nation. Alors c'est un bel objet de communication, mais d'abord effectivement ça relève pas
d'abord,
forcément.
D'abord il a été pris par Israël déjà premièrement.
Si j'étais un peu provocateur, je dirais, mais est-ce que finalement la France, elle peut être une start-up nation? Est-ce qu'elle doit l'être? Est-ce que c'est son intérêt? La France, c'est aussi un vieux pays. C'est un pays qui a des grandes entreprises, qui a des grandes industries. Elle va pas faire comme s'il était un pays de 10 millions d'habitants qui s'était inventé à partir de rien. Donc, je pense qu'on a aussi notre chemin à tracer, qui est un chemin où on fait une alliance fructueuse entre effectivement des start-upers, entrepreneurs, mais aussi les grands groupes, et où on n'essaye pas de traiter chacun dans un canal, mais on essaye plutôt de faire des alliances entre les uns et les autres. Et c'est un peu, je dirais, comme dit le proverbe, l'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête. Si on veut trop jouer à start-up Nation, sans forcément derrière avoir, je dirais, toute infrastructure QC, ben on arrive dans ce genre un peu de bug de communication où tout d'un coup les gens se rendent compte, ah bah non, finalement le milieu start-up n'était pas aussi connu que ça, etc. Mais je pense que voilà, c'est aussi ce concept qui pose problème et qui était peut-être plus un objet de communication finalement, quelque chose qui correspondait vraiment à la réalité française et peut-être à ce qui est souhaitable aussi pour le pays.
Quand on regarde les start-up européennes, on en a de très grosses, je pense à Spotify dont on parlait tout au long de cette émission, de Deezer, de Sens Cloud, on peut parler de Dailymotion, ça a été fait tout à l'heure, et de beaucoup d'autres, dont certaines qui ont été rachetées par les Américains, parfois par les Chinois. On peut citer beaucoup d'exemples. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nécessité, malgré tout, d'essayer de défendre cette économie-là, Séverin Naudet? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions pour que, au fond, on ne développe pas des startups, on ne les finance pas, on ne les porte pas en France, pour que, finalement, dès qu'elles deviennent rentables ou dès qu'elles ont réussi, elles deviennent des cornes, mais non pas en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au fond de politique industrielle, même au niveau européen, que bon gré mal gré, ce décret tente de trouver des solutions par rapport à ça?
Alors, oui, mais comme toujours, on est sur la défensive, on n'est pas sur l'offensive. Il y a 1500 milliards qui sont poussés vers l'assurance vie dans ce pays et pas vers le capital risque, par exemple. Donc on pourrait flécher les investissements de manière beaucoup plus productive en France pour faire en sorte que les capitaux soient français et qu'ils investissent dans des entreprises françaises. Par ailleurs, je pense que on a plutôt à être fiers d'avoir un des pays où l'écosystème de start-up est un des plus beaux au monde et où les investisseurs et les entrepreneurs étrangers viennent voir pour trouver des produits, des services innovants. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ensuite, il n'y a pas toujours une une capacité de la vieille industrie dont vient de parler Romain à innover, à créer les modèles de demain. Et ils les laissent passer. On va pointer du doigt personne, mais il y a eu beaucoup de gens qui, je me souviens pour Dailymotion, d'une époque où on parlait avec des industriels français qui nous avaient dit « Oh ben non, on va pas vous acheter parce que la vidéo, c'est une mode. » Voilà.
Mais on peut quand même citer Mythic, Skype, Nokia, qui étaient européens, qui sont devenus américains. On peut citer Deezer, on ne sait plus trop ce que c'est, ça a été russe et américain maintenant. Price Minister et Supercell, qui sont désormais japonais. Spotify, qui est souvent menacé. Pour terminer brièvement, Romain Piginal, on voit bien qu'il faut aussi défendre ces industries.
Ouais, évidemment, et je crois que ce qui est important aussi, justement, c'est pas être dans un patriotisme défensif que dans un concept d'état stratège, c'est-à-dire de réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire dire on ne va pas nous faire le prochain Uber ou le prochain Facebook, la place est déjà prise. Par contre, voir sur les technologies d'avenir. On a parlé de l'IA, on peut parler aussi de la blockchain, qui est quand même quelque chose sur laquelle la France a des atouts à faire valoir. Et là, il faut effectivement avoir des logiques au niveau européen, avec une logique stratégique, pour prendre un coup d'avance. Mais c'est sûr que si on veut faire du défensif...
Peut-être harmoniser la fiscalité en Europe, pour commencer, non ?
Et absolument. Et c'est ça la différence, c'est un état stratège, et pas effectivement un patriotisme qui soit uniquement défensif et protecteur.
Bien, on va en rester là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux. Séverin Audet, ancien conseiller numérique à Matignon, aujourd'hui consultant du cabinet de conseil Tilder. Romain Piginel, ancien conseiller de François Hollande, consultant numérique.
Co-fondateur de Futures.io.
Voilà, c'est le nom.
Et on fait de la blockchain, ce petit instant publicité.
C'est le nom de la société de consultation, de consultance,
voilà.
on peut dire.
Bien beau mot.
Pour aller plus loin sur ces questions, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power. Dimanche prochain, nous parlerons de l'Italie, deux pays en un, deux pays pour une élection de tous les dangers. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.